Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Mais qui êtes-vous, les journalistes? Vous n'exprimez que des intérêts particuliers, moi je représente l'intérêt général, car j'ai été élu par le peuple, vous ne représentez que vos lecteurs. Ainsi parlait Napoléon III, cité par le philosophe Philippe Reynaud dans une tribune parue dans Le Monde hier. Alors les termes ont changé, mais l'argumentaire n'est pas très éloigné de celui employé par le président de la République la semaine dernière à propos du traitement de l'affaire Benalla par la presse. L'affaire Alexandre Benalla, faut-il le rappeler, du nom de ce chargé de mission à l'Élysée, désormais licencié, et dont le journal Le Monde a révélé le 18 juillet qu'il était bien l'homme que l'on voit agresser deux manifestants sur une vidéo le 1er mai à Paris. Après 6 jours de silence, quand il a finalement pris la parole devant ses troupes, le président Emmanuel Macron s'en est pris directement à la presse. Une presse qui, selon lui, ne chercherait pas toute la vérité, se prendrait pour la justice et colporterait des erreurs. Des accusations sévères de la part de la plus haute autorité de l'État à l'encontre d'une profession censée incarner le quatrième pouvoir. Ce qui ne l'exempte pas de critiques, bien entendu, et c'est ce dont nous allons discuter. Affaire Benalla, que reproche-t-on aux médias ? Eh bien, ce sera notre discussion jusqu'à 19h. Et ils sont 4 invités aujourd'hui pour en discuter. Notre premier invité est au téléphone, Luc Bronner. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction du journal Le Monde et du Monde.fr et nous vous remercions d'être avec nous par téléphone depuis votre lieu de vacances. À vos côtés, alors pas à vos côtés, virtuellement, en studio, Gilles Legendre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de La République En Marche, élu en juin 2017 de la deuxième circonscription de Paris. Vous êtes vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous êtes chargé de piloter la communication et de coordonner le porte-parole. Et puis vous êtes un ancien journaliste, un ancien collègue de nos invités ce soir. Et vous êtes non seulement ancien journaliste, mais aussi ancien rédacteur en chef, surtout dans la presse économique, vous l'avez été combien de temps à peu
j'ai
près?
J'ai été journaliste pendant 21 ans et j'ai cessé de l'être il y a 16 ans, en 2002.
À vos côtés pour discuter, Adam Nociter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant en France du New York Times. Vous avez notamment suivi cette affaire pour votre journal. Et puis, dernier invité, Alexis Lévrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des médias, vous enseignez à l'Université de Reims. Vous êtes également chercheur associé au CELSA. Et vous êtes beaucoup intéressé à la relation entre journaliste et pouvoir. Vous avez publié notamment Le Contact et la Distance. C'était aux éditions Les Petits Matins en 2016. Et puis, ce matin, vous avez publié dans Le Monde, une tribune justement sur les rapports entre les médias et le président Macron. Alors c'est une phrase du président qui a fait particulièrement réagir. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire. Gilles Legendre, est-ce que cette phrase, vous la reprenez à votre compte? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'agit de dénoncer exactement par cette comparaison? Et à quel moment, selon vous, les journalistes se sont pris dans l'affaire Benalla pour des juges?
Alors, je pense que d'abord, je ne suis pas là pour commenter les propos du président de la République, mais je vais quand même vous répondre parce qu'il m'est arrivé une mésaventure qui contribue à répondre à votre question. J'étais invité chez l'un de vos confrères deux jours après que l'affaire éclate, sur LCI pour ne pas les nommer, et dans le feu de la conversation, tout en ayant reconnu de façon très claire ce que j'aurai l'occasion de redire ce soir, le rôle absolument essentiel pour la démocratie que joue la presse dans la recherche et dans la révélation de la vérité, même et surtout quand elle embarrasse le pouvoir en place, j'ai eu dans le feu de la conversation l'audace de dire « mais ça n'est pas au monde, ni à LCI, M. Pujadas, ni à Gilles Legendre, en me désignant moi-même, de rendre la justice ». Ça a été repris sur les réseaux sociaux et là, j'ai eu le droit à une levée de boucliers de beaucoup de journalistes, dont certains journalistes du Monde, dont certains anciens camarades du Monde, dont l'un que je ne citerai pas, me disant « ça n'est vraiment pas Jojo ce que tu as dit, Gilles ».
Alors peut-être pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'il y avait derrière ces mots.
Et je lui ai répondu « est-ce que tu approuverais l'assertion contraire, à savoir « c'est au Monde de rendre la justice ». Et là, et je lui rends hommage, il a retiré son tweet. Ça n'est certainement pas à la presse de rendre la justice. Par contre, et je le redis ici avec force et conviction, c'est à la presse de jouer tout son rôle dans la recherche et dans le dévoilement de la vérité, par les moyens évidemment honnêtes, qui en l'espèce ont été parfaitement respectés, et y compris quand cette vérité embarrasse. Mais ensuite, C'est à la justice de rendre la justice. Ça n'est pas à la presse. Et quand le président dit que ça n'est pas à la presse d'exercer le pouvoir judiciaire, il a raison.
Luc Brunner, est-ce que vous avez eu l'impression à un moment dans cette affaire et dans le traitement en particulier par Le Monde que les journalistes aient pu aller sur le terrain de la justice des juges ?
Non, je pense que les journalistes ont tout simplement fait leur travail. Et leur travail, c'est de révéler ce qui peut déranger. En l'occurrence, ce qui dérange aujourd'hui le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire l'Élysée, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Donc nous n'avons fait que notre travail. Ensuite, et c'est important, qui prend le relais ? C'est d'abord le parquet qui ouvre une enquête préliminaire, qui est ensuite confié à des juges d'instruction qui, eux, ouvrent une information judiciaire. Ça débouche sur des mises en examen. Donc le volet judiciaire, il est très clairement géré par les institutions qui sont compétentes et qui sont le parquet et les juges d'instruction. C'est le premier point. Le deuxième point qui est important et que sous-estime assez logiquement le député En Marche et l'ensemble de la majorité En Marche, c'est que s'ouvre une série d'enquêtes parlementaires qui sont assez exceptionnelles dans le paysage politique français et qui débouchent sur une série d'auditions, de questionnements qui relèvent du pouvoir normal dans une démocratie, qui est le pouvoir d'un contre-pouvoir parlementaire d'interpeller, de questionner le fonctionnement d'un gouvernement. S'ouvre enfin une troisième type d'enquête, qui est l'enquête faite par l'IGPN, qui est une enquête administrative. Donc le simple fait de rappeler ces éléments commande un fait divers assez banal, malheureusement, c'est-à-dire des violences commises qui, en temps normal, auraient probablement débouché sur une simple condamnation, parce qu'il y a eu dissimulation, parce qu'il y a eu probablement une volonté de mentir et de ne pas montrer un fait grave, on arrive sur une série d'actes graves qui, eux, débouchent sur ce type d'enquête. Donc le pouvoir judiciaire, absolument pas. Nous sommes simplement dans l'exercice de la responsabilité des médias aujourd'hui.
Adam Nocister, dans votre regard d'Américain, de journaliste américain sur la manière dont la presse française a révélé et traité l'affaire Benalla et sur la manière dont le président a réagi et critiqué la presse.
Oui, d'abord je salue mes confrères au Monde. Je crois qu'ils ont rendu un grand service au public en révélant ces faits et ensuite en continuer à nous donner des révélations successives. Et donc je crois qu'ils ont très bien fait leur travail. Ils étaient absolument dans leur rôle de démasquer les dérives du pouvoir. Et donc je les salue. Ensuite, pour l'anecdote, je dois signaler que j'étais avec le président Macron le jour après les révélations du Monde. Je l'accompagnais en Dordogne pendant toute cette journée. Et je dois dire que j'étais extrêmement frappé par la manière dont Monsieur le Président Macron a réagi aux questions des journalistes sur l'affaire Benalla. À mon sens, les journalistes ne faisaient que leur travail en lui demandant de réagir à ce que le Monde révélait. À chaque occasion, Monsieur Macron a carrément refusé. Soit il ignorait les questions, soit il refusait de répondre. Et en général, il traitait la presse avec une sorte de mépris et de dédain qui, je dois dire, sonnait relativement mal. Et il m'a semblé que Monsieur Macron est dans l'incompréhension du rôle de la presse dans une démocratie. Et je dis cela tout simplement parce que il me semble que c'était de son devoir d'expliquer au peuple français à ce moment-là ce qui s'est passé.
Peut comprendre qu'il n'ait pas eu envie d'avoir une réaction à chaud à ce moment-là sur un déplacement. Vous disiez, vous étiez en Dordogne et effectivement le président s'est exprimé six jours plus tard. Est-ce qu'on peut estimer, Alexis Lévrier, que c'est trop 6 jours?
Ça montre qu'il y a eu un embarras au sommet de l'État Et ça tranche avec la communication millimétrée du président en temps normal, puisque même, alors il y a la journée en Dordogne que vous racontez, où il refuse de, il esquive les questions des journalistes, mais même sur les réseaux sociaux, alors qu'il a une communication, ça lui correspond bien, il veut contrôler, verrouiller sa communication, du coup, il se passe des journalistes pour parler aux Français. Mais là, même sur les réseaux sociaux, son compte Twitter, notamment, n'a pas été alimenté pendant 6 jours. Ça prouve bien que quelque chose ne fonctionnait pas. Quant à ce qu'il a dit le mardi 24, je crois vraiment, je préfère, moi, considérer que c'est une parenthèse dans le rapport qu'Emmanuel Macron a avec la presse, qui voulait ressouder sa majorité, qui s'est adressé aux députés. D'ailleurs, une nouvelle fois, il n'a pas répondu aux journalistes. Il s'est adressé d'abord à ses députés, à ses ministres, et que donc il les a ressoudés en ayant un vocabulaire un peu guerrier, qu'ils viennent me chercher, d'où ses propos qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il dit d'habitude sur la presse. Pendant le Penelope Gate, pendant la campagne, et où le Canard Enchaîné avait fait un travail tout à fait similaire à celui que vient de faire Le Monde, c'est-à-dire non pas se substituer au pouvoir judiciaire, mais permettre aux autres contre-pouvoirs de jouer leur rôle. Permettre...
Pourtant, depuis un an, de nombreux journalistes, et Le Monde en fait partie, vous allez nous le dire, Luc Bronner, reprochent à Emmanuel Macron son mépris de la presse, ses critiques virulentes, etc. Luc Bronner. Ah, je crois qu'on a perdu Luc Bronner.
Pardon. Ça n'est pas une critique que je reprends. Je pense que la mise à distance du pouvoir, notamment de l'exécutif par rapport aux médias, est plutôt une bonne chose. C'est vrai que sous Hollande, il y avait eu l'habitude d'avoir une communication assez fluide avec des informations qui remontaient assez facilement. Moi, très honnêtement, je préfère avoir un rapport assez rugueux avec les pouvoirs. Je pense qu'un journal comme Le Monde est bien positionné quand il fait ce genre de révélation sur Macron, quand il sort les Panama Papers, quand on sort des informations sur la Farge, sur la Syrie. Donc, si vous voulez, la distance, moi, ne me gêne pas. Ce que je trouve grave, problématique, ce sont les phrases qu'il prononce mardi 24 juillet, que je ne pense pas être accidentelles, où il conteste, au fond, toute légitimité à l'ensemble des contre-pouvoirs. Le discours de mardi dernier d'Emmanuel Macron est un discours, vous avez raison, Monsieur Lévrier, d'insister sur le contexte qui est prononcé devant des députés et des membres du gouvernement En Marche, mais c'est un discours sur lequel il tape à la fois sur les parlementaires qui font leur travail, sur les magistrats qui font leur travail et sur les journalistes qui font leur travail. C'est de ce point de vue-là, je pense que c'est un moment important de la vie démocratique française où on se rend compte, parce qu'il est en difficulté, que nous avons un président qui lit très mal les critiques émanantes des contre-pouvoirs.
Gilles Legendre.
C'est pas tout à fait inexact, et tout à fait exact, si je puis me permettre. Ce qu'a dit le président mardi, c'est que chaque institution, et il considère que la presse en est une, même si elle est une institution d'un genre particulier, et si notamment elle est une institution dont il n'a pas par fonction à se porter garant, doit être dans son travail. C'est ça qu'il a rappelé. Par ailleurs, il est de la nature des choses que les rapports, et dans ce cas-là je donne parfaitement raison à Luc Bronner, entre le pouvoir et la presse soient compliqués, voire conflictuels. C'est par construction que ça doit être ça. Et je préfère grandement ça à la connivence. Ce qui suppose le droit à la critique et le droit à la critique réciproque. Ce que je remarque, c'est que souvent, je ne parle pas pour les voisins qui sont autour de moi dans ce studio, mais souvent, quand un pouvoir, qu'il soit politique ou économique, adresse ses critiques à la presse se victimise et fait passer ça pour du dédain, par un complexe de supériorité, par la volonté de la contrôler. Il y a un rapport de force. Il est dans la nature du rapport entre les pouvoirs en place et le pouvoir de la presse. Et la question que pose ce genre de crise et l'emballement auquel il donne lieu, c'est deux choses. Premièrement, quelle est la vérité ? Et ça, en effet, il y a eu, pendant l'emballement, la phase d'emballement de cette affaire, des faits majeurs, s'ils ne concernent pas Le Monde. Donc, si vous voulez bien, on va quitter le cas du Monde particulier, que surtout ce que je vais dire ne paraisse pas pour une critique ad hominem du Monde. Mais il y a eu des faits évidents de fausses informations qui ont circulé à haute dose et qui ont été largement reprises. Donc, contester la presse quand elle cède à ce penchant de laisser passer des informations qui sont fausses, c'est à mon avis de la bonne santé démocratique. Et la deuxième chose qui est à mon avis importante, c'est de savoir quelle est la bonne distance, si vous voulez ça. Je reprends le titre du livre de Monsieur Lévrier. C'est vrai que depuis le début, Emmanuel Macron surprend la presse précisément parce qu'il a une pratique du pouvoir et du rapport avec la presse en assez forte rupture par rapport à nombre de ses prédécesseurs, et pas simplement le dernier, comme on l'a souvent caricaturé. Et ce droit-là est un droit qui lui appartient. Il n'a pas porté de critique de la presse en tant qu'institution globalisante. Il a porté critique sur une certaine pratique. Vous savez, quand dans le même journal de télévision, sur une chaîne d'info, le présentateur peut dire dans le même temps, premièrement, nous savons maintenant que Monsieur Benalla a un appartement de 300 mètres carrés de fonction au Quai Branly, et que dans la minute qui suit, par ailleurs, son appartement a été perquisitionné à Issy-les-Moulineaux, et qu'il ne voit pas qu'en disant ça, il y a quand même un truc qui cloche, il y a vraiment un vrai sujet.
Alors ce sont des informations qui ont par ailleurs effectivement été démenties, il n'y a pas d'appartement de 300 mètres carrés sur le salaire également de 10 000 euros, les choses ont été démenties par l'Élysée.
La vraie question aujourd'hui, notamment pour toute la presse, c'est de savoir si elle a la possibilité, la puissance économique et professionnelle qui lui permet de jouer pleinement son rôle. C'est ça c'est une vraie question. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une porosité excessive entre le travail de journaliste professionnel et ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux? On voit bien que cette coexistence est problématique, et je le dis sans mettre en cause un seul instant la déontologie, l'honnêteté et le professionnalisme. C'est une question que je pose sur le système médiatique dans son ensemble. Et c'est une question que je sais se posent beaucoup des dirigeants de presse. Ils ont raison de se la poser parce que leur modèle est en plein bouleversement.
Alexis Lévrier, sur cette question des rapports rugueux, comme l'a dit Luc Bronner, entre la presse et le pouvoir, et qui se réjouissait qu'il y ait des rapports rugueux entre la presse et le pouvoir, est-ce qu'on est dans ces cas de figure-là selon vous, ou est-ce que dans les phrases du président Emmanuel Macron, il y a quelque chose d'un peu plus fort, c'est-à-dire une contestation de la légitimité de la presse à exercer son pouvoir? Vous l'observez-vous?
Alors, pour moi, il y a vraiment une rupture très forte depuis l'affaire Benalla. Ça montre là un aspect plus dérangeant du président, parce que pour le reste, vous avez raison de le souligner, il a insisté, vous l'avez d'ailleurs tous les deux souligné, Luc Bronner et Gilles Legendre, l'un des acquis de cette nouvelle présidence, c'est d'éloigner un peu le pouvoir politique du pouvoir médiatique. Et dans ses voeux à la presse le 3 janvier, il a bien dit qu'il fallait une saine distance ou une légitime distance entre la presse et le pouvoir. On sortait de deux quinquennats où il y avait une très grande porosité, beaucoup de passages, un président, François Hollande, arrivé à l'Élysée au bras d'une journaliste politique, et qui, avec quatre couples journalistes politiques, on avait vraiment atteint une forme d'apogée de ces rapports de proximité entre pouvoir politique et médiatique. Donc je trouve qu'il a raison, et Luc Bonnard le dit, même des rapports rugueux, c'est pas un problème, on peut l'accepter. Mais là, quelque chose a changé, et le mardi 24, il tient des propos qui n'ont rien à voir avec ça, surtout quand on sait qu'il veut faire voter une loi sur les fake news. Alors, à ce moment-là, il faut savoir de quoi on parle. Il a mis ce soir-là...
Loi qui a été votée.
Alors, le Sénat a refusé de l'examiner, donc elle n'est pas encore, il n'est pas encore acquis qu'elle sera votée.
Qui ne concerne pas les journalistes, hein. Je m'empresse de le préciser pour qu'il n'y ait pas de méprise.
Hein. Il y a encore débat sur la question, puisque plusieurs journalistes contestent le fait que les fake news vont les empêcher de faire des investigations.
Et moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, dans les propos du président. Le mardi 24, il met sur le même plan le travail d'investigation du Monde, incontestable, les exagérations dont vous avez parlé.
Il ne cite pas les médias, il n'a pas cité Le Monde.
Quand il dit qu'il y a une presse qui ne cherche plus la vérité, il met dans la même énumération et sur un mode ironique, je n'ai pas de rapport homosexuel avec M. Benalla.
Ça a circulé, comme vous le savez, jamais vous avez vu ça
dans Le Monde.
Il y a des journalistes que je ne citerai pas ici, de la presse écrite, qui ont fait une suggestion extrêmement poussée sur la nature des rapports qu'il pouvait y avoir entre M. Benalla et le président de la République. Ça a été dit, ce n'est pas uniquement les zozos qui répandent leur bile sur les réseaux sociaux.
Vous avez raison, mais il vient d'évoquer le travail du Monde, et c'est précisément Le Monde qui, en novembre 2016, et c'est justement la même journaliste qui a révélé l'affaire Benalla, Ariane Chemin, dans un papier avec Raphaël Baquet, qui avait bien montré que c'était une rumeur fabriquée pour nuire au président. Donc c'est vraiment le travail de la presse. Quand il y a une rumeur, il faut l'examiner, il faut le tordre le cou.
Le Monde mardi dernier.
Il a mis tout sur le même plan. C'est cet amalgame qui me pose problème.
Il a fait l'amalgame.
Et derrière,
je crois que ça vaudrait la peine de souligner que M. Macron a présenté la présentation initiale de son loi sur le fake news a été faite lors de ses vœux à la presse le 3 janvier. Donc, une audience qui n'avait strictement rien à voir avec le fake news, a été régalée avec un soi-disant tentative de protéger la presse. Des gens qui n'avaient rien à voir avec le fake news était l'audience pour cette présentation. Je crois que pour moi ça démontre que Monsieur Macron ne fait pas la distinction entre les pourvoyeurs de fake news et les médias légitimes. Il fait l'amalgame.
Je m'inscris absolument en faux parce que avant les vœux à la presse, nous avions eu une réunion dont toutes les informations d'ailleurs avaient transpiré, de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, où ce sujet avait été évoqué. Et Emmanuel Macron avait très bien montré que ce qui n'était pas encore un projet de loi dans son esprit, mais qu'une protection contre les fake news était aussi une protection des journalistes. Aujourd'hui, cette question de la porosité qu'il faut réduire entre, d'un côté, les réseaux sociaux sur lesquels circulent beaucoup de choses intéressantes, mais aussi beaucoup d'horreurs, et le travail journalistique, cette frontière-là, elle doit être défendue pieds à pieds.
Mais justement, Gilles Lejean, vous n'avez pas eu l'impression que le président faisait un amalgame quand, dans la même phrase, il a dénoncé à la fois les rumeurs concernant une
soi-disant liaison
des choses qui étaient apparues dans les médias, comme l'appartement de 300 mètres carrés qui était apparu dans l'Express, etc.
Je ne
cite pas les médias et je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Je dis juste que, de temps en temps, il y a des informations qui partent à toute vitesse sur les sites internet des journaux qui ont pignon sur rue et qui, du coup, ont probablement ou peut-être des procédures de contrôle un tout petit peu moins vigilantes sur le média électronique ou sur la version électronique du média qu'ils n'en ont sur la presse écrite. Et que dans le feu de l'action, dans l'emballement, dont je ne conteste pas la légitimité, quand une affaire surgit, il est normal que l'emballement la suive. Mais cet emballement aboutit probablement à des défauts de vigilance dans les procédures de contrôle. Et quand vous n'aviez qu'une édition papier qui sortait tous les 24 heures, qui était relue par 5, 6, 7 mains, ou 6, 7 paires d'yeux plus exactement, et contrôlée, et relue, et sous-pesée, ça n'est pas exactement la même chose qu'une nouvelle qui part sur Internet et dans laquelle, après, il est extrêmement difficile de revenir en arrière.
Le journaliste de Libération, Paul Quignot, dans son édito le 25 juillet, disait « Une exactitude ici, une interprétation erronée par là, c'est possible, mais ce n'est pas une crise médiatique. » Luc Brunner, c'est inévitable lors de ce type de révélation qu'elles portent aussi leur lot d'erreurs et d'approximations.
Chute. Oui, probablement. Et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs, il faut le dire, il faut le reconnaître. Alors, je suis dans la position la plus facile, puisque dans toutes les erreurs qui ont été citées par le président de la République, aucune n'a été commise par le monde. C'est facile de reconnaître des erreurs qui ne sont pas les nôtres. Mais je pense que quand Emmanuel Macron fait la liste de ses erreurs, c'est évidemment pensé, et c'est une vision stratégique, c'est une façon d'amalgamer ce travail, ces erreurs, avec le travail d'investigation qui, lui, n'est pas contesté sur le fond et qui a ouvert toutes les enquêtes que j'évoquais tout à l'heure. C'est une stratégie assez classique. Moi, j'ai en tête Pasqua qui disait à l'époque « quand on a un incendie, il faut en allumer un autre ». Je pense que, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'est pas du tout dans le nouveau monde qu'il promettait dans sa campagne électorale. Il est dans un fonctionnement qui ressemble beaucoup à l'ancien monde. Il ouvre un nouveau front, il tape sur un contre-pouvoir et il fait un immense amalgame entre tous les journalistes, tous les médias. C'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que à se concentrer sur l'aspect second de l'affaire, on en oublie le cœur de l'histoire, qui est la dissimulation, qui est la découverte aussi, à notre grande surprise, parce que nous ne l'imaginions pas au moment où l'affaire est ouverte, au fond de l'existence d'un Élysée parallèle. Personne ne savait que Benalla et quelques autres occupaient des postes de chargé de mission, pas même la haute autorité chargée de la transparence de la vie politique, pas même une grande partie des cabinets ministériels ou des parlementaires. Et cette affaire est intéressante parce que elle met en avant le fonctionnement très particulier de l'Élysée sous Emmanuel Macron, avec des équipes constituées peut-être rapidement, avec une grande diversité de profils, ce qui est plutôt une bonne chose, mais du coup des circuits de décision, des circuits de contre-pouvoir qui ne fonctionnent pas. Je note en passant que Et c'est peut-être un hommage indirect au travail de la presse. Quand Emmanuel Macron critique le fonctionnement des médias, mais annonce dans la foulée une réforme de l'organisation de l'Élysée, c'est une façon de reconnaître que quelque chose ne fonctionnait pas, et bien au-delà des quelques erreurs qui ont été pointées. Donc je pense que dans cette stratégie de la part d'Emmanuel Macron, il y a la révélation de sa perception réelle de ce que sont les contre-pouvoirs en France, et il y a aussi la révélation de son exercice de l'État, de sa pratique du pouvoir, qui sur certains aspects est vraiment problématique et ressemble malheureusement à l'ancien monde qu'il a beaucoup critiqué avec d'autres.
Alors vous parlez du fond, Luc Brunner, justement sur le fond, ça fait partie des critiques qui ont été faites à la presse. Le Monde a qualifié, c'était le 21 juillet je crois, l'affaire Benalla d'affaire d'État. Aujourd'hui d'autres parlent de dérive personnelle, quand je dis d'autres c'est d'autres journalistes mais aussi des historiens, des philosophes. Alexis Lévrier, au fond si on reprend un petit peu de distance historique, dans une affaire comme celle-là, est-ce que c'est aux journalistes, est-ce que c'est aux chroniqueur, éditorialiste, de qualifier le moment qu'on est en train de vivre, ou est-ce que ce sera aux historiens plus tard ? Donc, est-ce que c'est une affaire d'État et qui est qualifié pour le dire ?
Les journalistes peuvent énoncer des hypothèses et donner la parole aussi, c'est ce qu'a fait Le Monde, ce qu'ont fait d'autres journaux, des historiens, des politologues qui peuvent essayer de mettre ça en perspective. Ce qu'il faut bien situer à chaque fois, c'est quelle est la prise de parole. Est-ce que c'est une prise de parole journalistique ? Est-ce que c'est une prise de parole politique ? Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite dit que c'était une affaire d'État du niveau du Watergate, mais il a tout un intérêt politique à le dire. Il faut situer les énonciateurs, en fait, tout bêtement. Et après, on n'a pas encore le recul pour dire, à mon avis, quelle est l'envergure, quelle est l'ampleur de cette affaire d'État. Mais elle touche de près au fonctionnement même de l'État. Au départ, je suis d'accord sur le fait que c'est un fait divers, c'est simplement un fait divers. Mais après, il y a 2 mois et demi de dissimulation par l'Élysée. À quel niveau, on ne le sait pas encore. Et ensuite, il y a le fonctionnement opaque de l'Élysée, ses collaborateurs officieux, dont on sait maintenant qu'ils vont être obligés de se conformer à la loi sur la transparence de la vie publique qui avait été votée après l'affaire Cahuzac et de déclarer leur lien d'intérêt. Donc ça, c'est un des premiers acquis du travail d'investigation de la presse, c'est que l'Élysée va devoir se conformer à cette loi sur la transparence et donc mettre en marche la République exemplaire qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux pendant la campagne. Après, moi je pense qu'il faut attendre, avoir un peu de recul historique pour savoir de quelle ampleur, de quelle envergure est cette affaire que nous vivons en ce moment.
Adam Nociter, qu'est-ce que vous avez pensé de la comparaison qui a été faite avec l'affaire du Watergate ?
Non, je crois que cela ne tient pas, absolument pas. Le Watergate était une gravissime affaire qui impliquait la présidence les plus hautes sphères de l'État à tous les égards. Et
qui a débouché en 74
oui,
sur la démission
dans
du président Nixon.
Dans la manière dont on sait déjà. Donc, Monsieur Mélenchon exagérait beaucoup un peu, et ensuite, je crois qu'il est revenu sur ses propos un peu. Donc non, rien à faire avec Watergate. Mais je suis d'accord quand même que l'affaire Benalla est une symbole pour la pratique du pouvoir telle qu'elle est exercée par Monsieur le Président Macron. Encore une fois, je crois que ça démontre qu'il a une mécompréhension, une méconnaissance du rôle de la presse dans une démocratie qui lui rapproche un peu quand même de notre président à nous, Monsieur Trump.
Est dans la mesure, là.
Monsieur Macron a affiché un mépris total pour le rôle de la presse dans son pays. Ce qui, pour moi, du moins, rassemble à l'attitude constante de Trump, qui nous désigne comme ennemis du peuple. Monsieur Macron n'était pas si loin que ça dans ses propos du mardi dernier.
Très loin, vous voulez dire ?
Non.
Vous partez de commentaires sur ce qui a été dit. L'hypothèse de la dissimulation, qui pourrait éventuellement constituer l'ébauche de l'esquisse d'une affaire d'État, mais enfin, quand on regarde la perspective historique, l'affaire d'État, elle est dans un tout autre niveau de l'échelle de Richter, hein, si je peux dire. Pourquoi n'est-on jamais parti sur l'hypothèse, tout simplement, d'erreur d'appréciation sur la gravité de la faute ? ce qui est déjà beaucoup moins grave que la dissimulation, telle qu'elle peut se produire dans n'importe quelle organisation, association, entreprise, ou quand un chef, un directeur, voit un de ses collaborateurs qui commet une bourde, voire une grosse bourde, et là c'en était une énorme, et ça je le dis sans réserve, peut avoir, compte tenu des états de service, de l'intéressé, une appréciation de la gravité qui est forcément subjective, comme ce serait le cas n'importe où, peut-être même à la rédaction de France Culture. Et donc, on part sur une bifurcation. Ensuite, pourquoi avoir fait, pourquoi ne pas jamais avoir testé l'autre hypothèse, voire les deux? Tout de suite, le système s'est emballé sur l'idée de la dissimulation. C'était déjà un parti pris dont la presse est absolument libre, mais en contrepartie, les pouvoirs ont le droit de la contester. Et encore une fois, moi, ce qui me frappe dans les propos de M. Nocitaire, c'est la dimension, un responsable politique qui critique la presse devient nécessairement arrogant, méprisant, ne respecte pas le quatrième pouvoir, a envie de le museler. Mais attendez, si, soyez fort, il y a un rapport de force. Tenons-le.
Il ne faut pas se tromper.
Exerçons-le. Vous avez parfaitement le droit, et j'espère les moyens de chercher la vérité partout où elle se trouve, et notamment quand elle nous gêne, nous les pouvoirs politiques ou les pouvoirs économiques ou les pouvoirs cléricaux, on en a eu un exemple dans le journal de France Culture il y a un instant, ayez cette force, les moyens économiques, les moyens professionnels, les moyens éthiques de le faire, et je suis de ceux qui pensent que globalement la presse française le fait très bien, mais ne vous effarouchez pas quand le pouvoir vous critique, conteste votre interprétation des faits ou pointe les inexactitudes manifestes quand elles se manifestent. Ça n'est pas une forme de mépris, ça n'est pas l'idée de brider, ça n'est pas l'idée de museler, c'est juste l'exercice normal d'un rapport de force dans une démocratie.
Non mais Luc Brunner voulait réagir. Je vais essayer de faire tourner un petit peu la parole. Luc Brunner au téléphone, vous vouliez réagir.
Oui, merci. L'erreur d'appréciation, ça serait une solution assez simple. Malheureusement, pour le pouvoir en place, tout indique le contraire. Pour quelle raison? D'abord parce que il y a eu dissimulation, et si on n'avait pas longuement travaillé plusieurs semaines pour arriver à vérifier de façon contradictoire cette information, rien ne serait jamais sorti. Le deuxième point, il est important, c'est que on nous a parlé d'une sanction à l'encontre de M. Benalla. On a bien vu au fil des révélations de la presse, du Monde et d'autres médias, puis ensuite du travail des commissions d'enquête parlementaires, que la sanction était pour le moins relative. Moi, j'ai en
elle
mémoire
existe,
les mots très durs
existe.
Qu'avait eu. Oui, mais j'ai en mémoire les mots très durs qu'avait eu Emmanuel Macron pour un adolescent qui avait osé ne pas l'appeler Monsieur le Président. Ça avait été diffusé sur le compte Twitter du président de la République. Pourquoi pas? Mais le sentiment et des faits qui s'ajoutent les uns aux autres montraient que la sanction à l'encontre de Monsieur Benalla était peut-être pas fictive, puisqu'il y a eu une suspension et qu'elle n'est pas contestée, mais que sur la question des salaires et de la rétrogradation, on était sur une sanction pour le moins légère.
Il aura perdu l'équivalent des 15 jours de suspension en salaire, simplement la loi interdit de supprimer le salaire, donc on lui a supprimé ses congés payés. Donc ces faits-là, là aussi, sont avérés. Après, on peut se poser la question de la gravité ou du poids de la sanction. Ça, c'est une bonne question. Mais on revient précisément à la question de l'appréciation de la faute.
Et puis, il y avait ce terme d'affaire d'État. Pardon, Luc Brunner, est-ce que... Oui, allez-y, continuez.
C'est vraiment important, parce que je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé, y compris nous, les médias, c'est l'histoire de la vidéosurveillance. Le fait que des policiers de la préfecture de police aient transmis à Benalla des images du 1er mai, des images tirées de la vidéosurveillance. Alors, passons rapidement sur le fait que normalement, ces images n'auraient plus dû exister. C'est un sujet à part entière. Qu'est-ce qui se passe ensuite et qui dit aussi la pratique de l'État d'une partie des entourages d'Emmanuel Macron, je vais être très prudent sur mes formulations, c'est que Benalla, nous dit-il dans l'entretien qu'il nous a donné, transmet ses images à quelqu'un de la communication de l'Élysée. Ismaël Emelien dit les avoir vues en main, ces images, pas forcément les avoir regardées. Qu'a-t-on appris grâce aux révélations de Mediapart? C'est qu'une partie de ces images, ensuite, ont été diffusées sur des comptes La République En Marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a eu, c'était le premier point, une forme de dissimulation. Il y a eu, c'était le deuxième point, une sanction dont on peut avoir, sur laquelle on peut avoir un débat. Il y a eu troisième point, une tentative de manipulation, probablement de la part d'un entourage, d'un des entourages du chef de l'État. Tout ça, pour moi, ça constitue des faits qui nous emmènent très loin du simple fait divers, très loin de la simple erreur d'appréciation. On est dans le fonctionnement.
Vous maintenez le terme d'affaire d'État, Luc Brunner?
C'est la question que j'allais vous poser. Merci, Gilles Legendre.
Oui, moi je le maintiens, mais on donne la parole volontairement notamment à des intellectuels, des historiens dans le monde. Je pense à Philippe Reynaud qui a fait un entretien dans nos colonnes à notre demande très critique sur cette qualification d'affaires d'État. On a donné la parole à Maître Kiegeman aujourd'hui même dans nos colonnes qui est également très critique. Donc, pour le coup, moi j'accepte très volontiers la critique et le débat sur cette notion d'affaires d'État. Je la maintiens parce que je pense que ça raconte l'exercice du pouvoir et le dysfonctionnement du pouvoir au plus haut niveau de l'État français. Donc on est bien dans une affaire d'État. Et pour le coup, et c'est la limite de la liberté de la presse, c'est évidemment le droit de critiquer la presse. J'accepte bien volontiers le débat et la critique sur cette formulation.
Alors, juste pour préciser, Philippe Reynaud, que vous citiez effectivement, Luc Brunner lui dit, il y a crise politique et non affaire d'État, car les actes n'ont pas été directement commandités par l'Élysée. Mais effectivement, c'est un débat en soi. Gilles Legendre, et puis après Adam aussi.
D'abord, ça n'est pas à nous de le trancher. C'est la vérité des faits, c'est ce que dira la justice, c'est la façon dont sont révélés le contexte, etc. Donc là-dessus, chacun son rôle. Mais en effet, liberté absolue à la presse de porter l'appréciation qu'elle souhaite, mais aussi d'accepter la critique quand on n'accepte pas forcément sa façon de présenter les choses. Moi, je voudrais prendre un tout petit peu de recul pour montrer quand même que à la fois la montée en puissance dans les termes, l'accélération des révélations, y compris au prix d'informations clairement fausses, procède d'un emballement qui est un phénomène relativement nouveau. Ça n'est pas du tout la première fois qu'il y a des affaires, et il y en a eu de bien plus graves que celle-ci, d'infiniment plus graves dans l'histoire, et que tout le monde connaît ici. Mais l'emballement, c'est un phénomène relativement nouveau. Il a eu lieu avec d'autres affaires. L'affaire Fillon a donné lieu à un emballement d'une nature identique. Elle était, à mon sens, infiniment plus grave que celle qui nous occupe aujourd'hui. Mais ça, c'est ma part probablement de subjectivité. Mais la question de l'emballement nous pose à tous, responsables politiques et patrons de médias ou journalistes, un vrai défi. Je pense qu'il est nouveau, cet emballement, qu'il est très fortement lié, à la concurrence terrible que se dressent les médias, notamment entre presse écrite et presse audiovisuelle, et le fait maintenant que les médias sont multicanaux, et donc sont dans l'immédiateté tout le temps. Il était un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où Le Monde publiait à peu près tous les jours 2 ou 3 rectificatifs dans ses colonnes, et c'était soigneusement pesé. Cette époque est largement révolue, et derrière nous. Et cet emballement, il est lié, évidemment, aussi à l'information électronique, et je pense qu'il fait lever un certain nombre de sécurités qui existaient auparavant, qui étaient plus robustes dans la façon dont l'analyse était portée et les faits vérifiés.
On va demander son regard à l'historien qui est autour de la table. Alexis Lévrier, est-ce que vous avez l'impression, comme le dit Gilles Legendre, que ce phénomène qu'on dit de l'emballement est nouveau? Et puis peut-être aussi, est-ce qu'on peut mettre un peu une définition et des faits peut-être un peu objectifs derrière cette notion d'emballement qui est parfois un peu facile aussi?
Il y a une accélération du temps médiatique, ça c'est incontestable. Et il y a une panique au sommet de l'État, certainement, en tout cas un moment d'embarras, mais il y a eu aussi une panique dans les médias. À la télévision notamment, où on a vu, y compris, je ne donnerai pas de nom, des journalistes qui effectivement relayaient des rumeurs. Je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure. Ça c'est vrai, mais je ne l'ai pas noté dans la presse écrite. Moi je pense que la presse écrite a parfaitement joué son rôle.
Les quotidiens... Ou la presse écrite sur les sites internet. Moi j'ai un exemple, encore une fois je ne le citerai pas, mais il y a un exemple d'information clairement fausse sur le site internet d'un grand hebdomadaire.
Je trouve que la presse écrite, même sur internet, dans l'ensemble, face à cette urgence, il y a une demande d'interactivité, il y a une demande d'immédiateté de plus en plus forte.
Elle est légitime.
Et je trouve que la presse parvient dans ce genre d'affaires à maintenir son éthique. Pas tous les journaux, mais dans l'ensemble, ceux qui ont porté l'investigation.
Je suis d'accord avec ça.
Le Monde, Mediapart, ont très bien fait leur travail.
Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et pour ce qui est, je voudrais juste réagir sur ce que vous disiez sur la trumpisation d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'on a vécu, il faut quand même le dire, un moment Trump, au moins le mardi 24, dans ses propos avec la presse. Je ne le pense pas pour le reste, mais quand on critique l'ensemble de la presse, qu'on met tout sur le même plan, qu'on est dans l'amalgame, dans la généralisation, Je trouve qu'il allait sur un terrain qui est celui d'habitude de Jean-Luc Mélenchon en France, qui disait récemment la haine des médias est juste et saine, la presse est la principale ennemie de la liberté d'expression. Quand il dit que la presse française ne cherche pas la vérité, on est face à ce type de généralisation qui rappelle le vocabulaire de Fillon pendant la campagne. Et il y a s'il faut s'expliquer pourquoi la presse est à ce point critiquée, il y a des raisons légitimes de la critiquer, mais c'est aussi que c'est un moteur électoral, c'est un ressort électoral, ça fonctionne bien, ça permet de ressouder une majorité ou un électorat. Et je pense qu'il a cédé à cette tentation. C'est très dommage parce qu'il est quand même le chef de l'État.
Adam
et ça n'est certainement pas sa pensée profonde.
Adam Nociteur, c'est vous tout à l'heure qui avez parlé le premier de la comparaison avec Trump et de ce mot de Trumpisation de la presse. Est-ce que vous maintenez cette comparaison? Comme le dit Gilles Legendre, elle n'est pas un petit peu exagérée étant donné l'ampleur de ce qu'on sait des relations entre Trump et les médias? D'ailleurs, le patron du New York Times était il y a une semaine à la Maison Blanche pour alerter, ce que vous me racontiez hors micro, alerter le président sur les critiques régulières qu'il porte sur la presse.
Oui, qu'il a estimé être dangereux pour la profession et pour le journalisme, parce que Trump, d'une façon régulière, nous désigne comme ennemi du peuple. Nous, le New York Times, un pas que M. Macron n'a pas franchi. Juste pour revenir un peu sur les points...
Vous avez dit un pas que Macron n'a pas franchi. Donc, on est d'accord, on n'est peut-être pas sur la même échelle.
Non, du tout. Non, il faut quand même maintenir cette distinction. Mais je voudrais juste revenir un peu sur les points qui ont été évoqués auparavant. D'abord, je crois que M. Macron lui-même a contribué à ce que vous appelez l'emballement. En refusant obstinément de s'exprimer sur l'affaire. Donc, M. Macron aurait pu très facilement éteindre le feu très tôt s'il a daigné de répondre aux questions légitimes des journalistes. Ensuite, je crois que c'est faux de parler d'un rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Le rapport de force est inégal et ô combien. C'est pas un accident qu'on désigne le pouvoir exécutif comme le pouvoir. La presse n'a pas ce pouvoir.
Contre-pouvoir.
La presse...
C'est le contre-pouvoir, c'est le quatrième pouvoir.
Oui, mais ça c'est une phrase. La réalité est que l'exécutif, le gouvernement, dispose de tous les moyens, de tous les pouvoirs, de tous les secrets. On n'est pas du tout sur le même niveau. La force est du côté du pouvoir. La force n'est pas du côté de la presse. La presse fait son travail, elle démasque, elle révèle quand elle peut, et c'est extrêmement rare, c'est extrêmement difficile ce que le monde a fait. C'est un travail de mois et de mois et de mois. La plupart, la vaste majorité des secrets d'État demeurent des secrets d'État. C'est extrêmement rare qu'un Watergate, qu'une affaire Benalla tombe dans la domaine.
Vous surestimez un brin l'efficacité de l'État. Hein.
Non, je
crois pas. La capacité que l'État a organisé ses fuites, y compris quand cet État ou ses services sont divisés ou en rivalité, existe aussi. Il ne faut pas non plus faire de l'État un ensemble monolithe.
Je suis dans le métier depuis presque 40 ans et je peux vous assurer que la force est du côté du pouvoir et pas du côté de la presse.
Adam Nociteur, le fait, comme vous le décrivez, que le rapport de force soit inégal, on va dire, entre le pouvoir
absolument
politique
inégal
et la presse, est-ce que ça peut expliquer aussi que les critiques contre la presse soient difficilement entendables pour les journalistes? On dit aussi un peu que les journalistes n'aiment pas la critique, n'aiment pas être critiqués.
Encore une fois, je crois que les journalistes sont critiquables, mais je rejette l'amalgame qu'on fait, que les politiciens font d'une manière absolument régulière entre les différents médias. Il y a une différence énorme entre le New York Times et Le Monde et BuzzFeed.
Vous avez le dernier mot, mais un mot, Gilles Legendre.
Écoutez, c'est pour dire que nous avons des intérêts et des positions antagonistes, si le mot rapport de force ne vous convient pas, mais nous avons une même mission qui est de faire fonctionner la démocratie. Or, ce que nous constatons en France, je ne sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit pas très différent, nous avons une classe politique et une classe médiatique qui est située en bas de la réputation auprès de nos concitoyens. Il y a quand même là une question qui mérite d'être traitée de façon intéressante.
Ce sera un débat à suivre dans Du grain à moudre d'été ou Du grain à moudre. moudre normale. Merci en tout cas à tous les quatre pour cette discussion. Merci Luc Brunner au téléphone, directeur de la rédaction du journal Le Monde. Merci Gilles Legendre, député de La République En Marche. Adam Nociter, correspondant en France du New York Times. Et Alexis Lévrier, historien des médias du Grain à Moudre d'été. Une émission préparée par Laila Saïdi, Imen Melaz, Marine Lerouge, Céline Leclerc et Coppelia Menardi. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Inès De Bruyne. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, et bien c'est comme toujours sur la page de franceculture.fr du Grain à Moudre d'été. Et le Grain à Moudre d'été, bien, se retrouve demain 18h15 pour parler de la réforme de l'apprentissage.